Henri de Régnier, conte vénitien, le buveur. Il buvait silencieusement, farouchement, solitairement. Jamais on n'avait tant bu dans cette petite salle peinte du café Florian, où les Vénitiens ne consomment guère que des glaces et des sorbets ou d'inoffensives boissons sucrées. Il buvait et je le regardais boire. C'était un homme entre deux âges, assez élégamment vêtu. J'apercevais son visage rasé, au nez droit, la bouche sensuelle et lasse, aux yeux fatigués. Je suivais les gestes de ses mains qui étaient belles. Un léger tressaillement les agitait quand, de l'un ou de l'autre des flacons qui étaient placés devant lui sur la table, ils versaient dans son verre leurs alcools différents. Car il buvait comme quelqu'un qui cherche dans leur mélange à en finir le plus vite possible avec sa raison. Et c'était, je vous assure, un curieux spectacle en cette salle de café déserte, à cette heure, que cet homme se saoulant ainsi, pour noyer dans une ivresse volontaire et calculée quelques souvenirs cruels ou pour y retrouver quelques joies perdues. Le café Florian, à Venise, demeure ouvert toute la nuit. Mais il était tard et ses habitués les plus acharnés l'avaient quitté depuis longtemps. Aucun pas ne retentissait plus sous les galeries des procuraties. À travers leurs arcades, on apercevait la place Saint-Marc en sa beauté nocturne. Je n'avais qu'à la traverser pour gagner mon logis, car cette année-là j'avais loué une chambre dans la salle de Fabry, derrière les vieilles procuraties, mais je ne pouvais me résoudre à m'en aller sans avoir vu ce qui adviendrait de mon buveur. Il continuait de vider verre sur verre. Le tremblement de ses mains augmentait. Son visage était devenu effrayant. L'alcool faisait son œuvre. Il était évident que cet homme, quand il essaierait de se lever, roulerait sous la table comme une masse. Il n'y roula pas. Je le vis tout à coup se soulever de la banquette sur laquelle il était assis, faire signe au garçon, lui tendre un billet de banque dont il refusa la monnaie, ramasser quelques feuilles de papier éparses devant lui, et par un incroyable effort de volonté, se mettre debout sur ses jambes et, sans tituber, comme s'il était mu par une force automatique, se diriger vers la porte. J'avoue que je fus sur le point d'applaudir cette sortie qui fut vraiment superbe et que l'inconnu avait effectué magistralement. Mais j'étais curieux de l'effet que produirait sur lui le grand air, et pour m'en rendre compte, je m'approchai de la vitre. Le garçon m'avait imité. L'homme était maintenant sur la place. Tout d'abord, il marcha droit, puis peu à peu, j'observais les zigzags inquiétants. Bientôt, ce fut l'allure de l'ivrogne qu'on ramasse sous les voitures. Mais il n'y en a pas à Venise. Il est vrai qu'il n'y manque pas de canaux qui tendent au pas le piège de leur eau invisible. Cependant, mon buveur avait atteint tant bien que mal l'entrée de la Merceria, où il avait disparu. Le garçon emportant les flacons vides, et il était temps de regagner mon logis. Comme je sortais du Florian, je remarquais sur la table trois feuilles de papier. C'était sûrement celles que l'inconnu avait emportées avec lui et qu'il avait laissées tomber. Que pouvaient-elles bien contenir ? Car elles étaient couvertes d'écritures. Peut-être aurais-je dû les déchirer sans les lire, mais la scène singulière à laquelle je venais d'assister m'intriguait. Une fois rentré chez moi, ma curiosité fut la plus forte. L'écriture de ces feuillets était facilement déchiffrable. Il formait une lettre dont manquait une partie, et cette lettre était adressée à une femme. La voici. « Pourquoi m'as-tu amené ici? Pourquoi as-tu voulu rompre les liens qui nous rattachaient à la vie? Pourquoi as-tu voulu, pour notre amour, cette fatale, cette terrible solitude? Pourquoi ne t'es-tu pas contenté de notre bonheur, et quelles dangereuses audaces t'a poussé à lui chercher une forme nouvelle. N'étions-nous pas heureux d'être heureux? Ah, Juliette, souviens-toi de nos jours là-bas, souviens-toi du merveilleux hasard qui nous a mis en présence l'un de l'autre et de l'extase que nous éprouvâmes quand nous comprîmes que nous nous aimions. Ah, comme nous unîmes alors nos espérances, nos désirs et nos forces. Nous nous sentions les maîtres de notre destinée. Nous donnions chacun, s'il n'était pas nous-mêmes, quelques-unes de nos heures. Puis, cette concession faite aux nécessités de la vie, avec quelle joie nous revenions à notre amour. Il rayonnait de nous et nous portions l'auréole de notre bonheur. Mais pourquoi l'as-tu brisé de tes mains insensées? Mais pourquoi m'as-tu amenée ici, Juliette? Tandis que tu dors dans ton lit, je suis dans ce café solitaire où je me prépare à accomplir l'acte fatal. Je vais demander aux flacons qui sont devant moi de me donner l'affreux courage dont j'ai besoin. Je n'ai plus la force de vivre, il me faut celle de mourir. Cela cependant doit être facile dans cette ville morte et taciturne. Elle est terriblement silencieuse ce soir, et le bruit d'un corps tombant dans l'eau s'y répercutera à l'infini. L'entendras-tu à ton sommeil, Juliette? Il y avait à cet endroit, sur la feuille, une large tache poissée qui rendait les lignes illisibles. Puis, le manuscrit continuait ainsi. C'est là que nous sommes venus quand tu as commencé à détester l'existence que nous menions. Elle empêchait, disais-tu, que nous fussions véritablement tout l'un pour l'autre. Elle nous empêchait de nous connaître et nous distrayait trop de nous-mêmes. Tu réclamais autour de notre amour la solitude absolue. Tu la voulais et je t'ai obéi. Nous avons quitté nos amis, nos plaisirs, nos travaux. Nous avons loué ce palais isolé, nous nous y sommes enfermés face à face. Nous n'eûmes plus d'autre occupation que de nous observer, de nous épier en nos actes les plus minimes, en nos plus secrètes pensées. Ah, le terrible jeu, et comme nous l'avons joué follement! Souviens-toi, Juliette, de ces muettes et cruelles péripéties. Comme rien en nous n'a résisté à notre investigation acharnée. Nous n'avons que trop vite appris à nous connaître. Comme je te suis vite apparu en ma médiocrité et ma misère d'homme. Comme je t'ai vite vu en ta frivolité et ton orgueil de femme. De ta beauté même, j'ai appris les défauts et ceux de ton cœur ne m'ont pas été cachés. À mesure que je n'étais plus à tes yeux ce que j'avais été, tu devenais au mien ce que tu étais réellement. Il n'y avait plus entre nous cette brume d'illusions que la vie interpose entre les vivants et où l'amour façonne ses fantômes réciproques et divins. On ne peut vivre sans eux, Juliette, et je vais mourir, mais auparavant, j'ai voulu te revoir une dernière fois telle que je t'ai aimée. Peut-être, dans cette heure suprême d'ivresse que les flacons vont me donner, vas-tu m'apparaître tel que tu étais avant que je t'eusse connu? C'est cela que je vais demander aux puissantes évocatrices des alcools. Puissais-je emporter dans la mort cette image bienfaisante de celle que tu fus, la Juliette de mon amour, de mon désir et de mon bonheur. Demain, sur mon visage glacé, tu sauras lire si mon vœu a été accompli, ou si l'eau nocturne a enseveli en son linceul humide que mon échec désespéré. Quand j'eus fini ma lecture, j'allai à ma fenêtre et l'ouvris. La nuit était pure et étoilée. L'eau du petit rio clapotait doucement. Aucun bruit ne troublait le vaste silence de Venise endormie. Je me demandais si je venais de lire la tragique confession d'un amant ou l'élucubration fumeuse d'un ivrogne. Qu'en pensez-vous ?